Philippe et Pile, midi, temps universel, 14h ici à Paris. Bienvenue, si vous nous rejoignez, bonjour.
Charlotte Idrac.
Frappes israéliennes, représailles iraniennes, troisième jour de confrontation. L'État hébreu indique avoir visé 80 objectifs pendant la nuit. À l'instant, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dit que l'Iran paiera un prix très lourd pour le meurtre prémédité de civils en Israël. La riposte iranienne en Israël a fait 13 morts depuis vendredi. Reportage dans un instant près de Tel Aviv. Quel est l'état d'esprit de la population israélienne sur cette opération? On appellera de Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. De leur côté, les autorités iraniennes accusent l'État hébreu de chercher à faire dérailler les négociations sur le nucléaire. On entendra l'ambassadeur d'Iran en France.
RFI Midi.
À suivre aussi, le Groenland n'est pas à prendre. Message porté par Emmanuel Macron en visite aujourd'hui dans le territoire autonome danois qui suscite l'appétit des États-Unis. En France, Nicolas Sarkozy, privé de sa Légion d'honneur après sa condamnation dans l'affaire dite des écoutes. Et puis démarrage tout en douceur au mondial des clubs de foot. 0-0 entre les Égyptiens d'Al Ahly et l'Inter Miami la nuit dernière, malgré les efforts de Lionel Messi. Oui, troisième jour de confrontation donc entre Israël et l'Iran, visé par de nouvelles frappes israéliennes. Ce dimanche, l'armée israélienne indique avoir visé 80 objectifs la nuit dernière. Siavosh Ghazi, on vous retrouve en direct de Téhéran, la capitale iranienne. Ce sont des sites militaires, hein, notamment, qui ont été ciblés et des sites également liés au nucléaire.
Pas seulement, en ce moment même, des avions survolent la capitale iranienne. Des bombes ont été lancées, donc au moins de ce que moi je peux voir de là où je suis, donc au moins 4 cibles qui ont été frappées dans le centre de la capitale iranienne. Là, il n'y a pas les endroits que je peux voir, les fumées qui sont dégagées. Il n'y a pas de sites nucléaires, mais il s'agit plutôt de sites contrôlé par le gouvernement. Donc des frappes actuellement donc sur la capitale iranienne. Il y a une heure, on a entendu une vingtaine de détonations dans le nord de Téhéran, mais aussi à l'aéroport de Mehrabad dans le sud de la capitale, et également les médias ont rapporté des frappes dans la ville de Karaj à 50 km à l'ouest de Téhéran. Donc des frappes qui ont repris donc à la mi-journée, depuis maintenant une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. Et avec donc après ces frappes et les frappes de la nuit dernière, le gouvernement a décidé d'ouvrir les métros la nuit, mais aussi les écoles et les mosquées pour que les gens puissent s'abriter dans ces endroits-là pour éviter des frappes. Et on est donc dans la poursuite des bombardements israéliens, donc avec des frappes de plus en plus régulières, notamment dans le centre de Téhéran des quartiers résidentiels.
Siavosh Ghazi en direct de la capitale iranienne, et on ne dispose pas à ce stade de bilan actualisé de ces frappes israéliennes qui ont fait au moins 78 morts en Iran vendredi. Côté israélien, le bilan là s'est alourdi à 13 tués et plus de 200 blessés depuis le début de la riposte iranienne. Et la frappe qui a fait le plus de dégâts, c'est à Bat Yam, dans la banlieue sud de Tel Aviv, où l'on vous retrouve, Sami Bourelifa. Il était 3h du matin, c'est ça, lorsqu'un missile balistique iranien a frappé de plein fouet une tour d'habitation.
10 étages en partie soufflés par la déflagration, des destructions dans un rayon de 300 mètres. Les secours tentent de retrouver des survivants sous les décombres. 8 personnes sont signalées disparues. Dans le quartier, la population est comme sonnée, les gens errent dans les rues. Guerra n'a rien vu de cette nuit de bombardement, mais il a tout entendu.
Nous étions dans un abri, et puis il y a eu des booms, les missiles. On est sortis ce matin pour voir ce qu'il s'est passé, et on a vu tous ces immeubles endommagés.
All of the buildings, everything, kids dead, people dead.
On a appris que des enfants étaient morts, des gens sont morts. Je ne sais pas à quel point la menace nucléaire iranienne était concrète, mais si Israël les a attaqués, c'était sans doute nécessaire.
Maybe, yeah, it was necessary for them.
Asaf, lui, possède un appartement dans le quartier. Son locataire blessé est à l'hôpital. Il nous ouvre la porte de son logement.
Shalom. All the windows explode.
Les fenêtres ont explosé.
The roof.
Le toit a été fissuré.
The kitchen is exploded.
La cuisine est pulvérisée. Mais à cause du toit endommagé, surtout, l'immeuble n'est plus habitable.
The building. There's nobody can live anymore.
Dans le quartier, les secours sont toujours à l'œuvre. Et puis, des larmes de joie. Une personne vient d'être retrouvée vivante sous les décombres.
Sami Bourrelifa, reportage à Bat Yam, dans la banlieue sud de Tel Aviv. Selon le ministre iranien des Affaires étrangères, les attaques de l'Iran s'arrêteront, je cite, lorsqu'Israël cessera son agression. Téhéran assure aussi avoir des preuves solides d'un soutien des forces américaines aux attaques israéliennes. Mais Donald Trump, lui, affirme que Washington n'a rien à voir avec l'offensive en cours. Le président américain met aussi en garde Téhéran et promet une réplique maximale en cas d'attaque iranienne contre les États-Unis. J'ajoute ces nouvelles réactions diplomatiques. Paris, par la voix du chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, affirme que la France n'a pas à ce stade mobilisé ses moyens militaires pour défendre Israël. Londres, de son côté, déconseille à ses ressortissants de se rendre en Israël. Et puis en Allemagne, le chancelier Merz affirme que l'Iran ne doit jamais disposer d'armes nucléaires. Situation et déclarations à suivre en temps réel sur RFI.fr. Et puis on y revient aussi dans quelques minutes avec nos invités.
RFI Midi.
Emmanuel Macron, attendu là en principe d'ici une petite demi-heure à Nuuk, c'est au Groenland, ce territoire autonome du Danemark convoité par Donald Trump. Le président français, Muriel Paradon, vient porter un message de solidarité au Groenland.
Emmanuel Macron se veut le porte-voix des Européens qui disent non à la prédation de Donald Trump. Le président américain a menacé à plusieurs reprises d'annexer le Groenland, territoire autonome du Danemark, riche en ressources minières et situé dans une zone stratégique. Il faut défendre sa souveraineté et apporter le soutien de l'Europe, selon l'Élysée. Alors, au cours de sa visite, Emmanuel Macron ira avec le Premier ministre groenlandais et la Première ministre danoise à bord d'une frégate pour discuter des enjeux de sécurité dans l'Arctique. L'autre thématique forte sera la lutte contre le réchauffement climatique. Le président français devrait survoler un glacier en hélicoptère, alors que la fonte des glaces au Groenland s'accélère dangereusement et menace, avec la hausse du niveau des mers, une grande partie de la planète.
Emmanuel Macron ira dans la foulée au Canada pour le G7, le sommet qui devrait être dominé par les dossiers brûlants de l'actualité, et notamment, on en parlait, le Moyen-Orient.
Oui, le Canada qui préside ce G7 avait dressé dans sa liste de priorités la sécurité mondiale et il sera donc certainement question du conflit entre Israël et l'Iran. Plusieurs dirigeants qui seront présents au sommet ont appelé à une désescalade. La guerre en Ukraine est aussi au programme. Quel soutien apporter au président Volodymyr Zelensky qui est invité au Canada? L'attitude de Donald Trump sera déterminante sur ces deux dossiers et les points de friction ne devraient pas manquer sur d'autres sujets aussi comme les tarifs douaniers, puisque l'économie, la sécurité énergétique et la transition numérique seront des thématiques fortes de ce sommet du G7.
Un rendez-vous que l'on suivra avec vous, Muriel Paradon. Aux États-Unis, la chasse à l'homme continue. La police recherche toujours le suspect du meurtre d'une élue démocrate du Minnesota, tuée chez elle avec son mari. Un acte délibéré de violence politique, selon le gouverneur de l'État, Tim Walz. En France, Nicolas Sarkozy prend acte de son exclusion de la Légion d'honneur, mais l'ancien président français souligne que la Cour européenne des droits de l'homme doit encore examiner son recours. La décision a été publiée ce dimanche au JO, le journal officiel. Elle est liée à sa condamnation dans l'affaire dite des écoutes, sanction rarissime pour un ancien chef d'État. Nicolas Sarkozy est le deuxième privé de cette distinction après le maréchal Pétain. Sanction rare donc, mais justifiée selon le sénateur socialiste Patrick Kanner.
C'est une décision logique, puisque le code de la Légion d'honneur, il y a un code, prévoit que pour les condamner à une peine de plus d'un an sans sursis, il faut rendre sa Légion d'honneur. Donc le président de la République actuel, M. Macron, trouvait à titre personnel que bon, ce serait dommage, mais dur à l'ex et de l'ex, la loi est la loi, même pour Nicolas Sarkozy. Et donc l'arrêté a été pris, a été publié au journal officiel. Nicolas Sarkozy n'est plus membre de l'Ordre national de la Légion d'honneur. C'est une décision administrative, c'est une décision politique, et permettez-moi de dire, c'est aussi une décision morale. Parce que la probité, l'exemplarité, quand on est président de la République ou ancien président de la République, est quand même un élément majeur. Donc une décision pour moi qui est totalement logique et qu'il faut respecter.
Le sénateur Patrick Kanner, propos recueillis par Valérie Gasse au congrès du Parti Socialiste à Nancy. Congrès marqué par les divisions toujours sur la relation du parti avec celui de la France Insoumise. Le premier secrétaire Olivier Faure et ses opposants en interne ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un texte de synthèse. Fin du congrès donc du PS en France, début du mondial des clubs de foot aux États-Unis. Bonjour Christophe Guérin.
Bonjour Charlotte.
Ça a démarré tout doucement, cette Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Le match d'ouverture à Miami s'est achevé sans but.
Mais pas folichon, hein, ce 0-0 entre les Égyptiens d'Al Ahly et les Américains de l'Inter Miami, le club de Lionel Messi, qui aura au moins eu le mérite d'essayer d'en donner un petit peu pour leur argent aux spectateurs, finalement nombreux. Mention spéciale également au gardien égyptien Mohamed El Shenawy, auteur de deux jolies parades en fin de match. Mais rien donc dans les filets pour lancer ce groupe A. L'autre rencontre de la poule, ce sera la nuit prochaine entre les Brésiliens de Palmeiras et le FC Porto. Début ce dimanche des matchs du groupe C. Le Bayern Munich affronte les Néo-Zélandais d'Auckland City à Cincinnati, 16h temps universel. Et à 19h TU, on va frapper les trois coups pour les champions d'Europe. Le Paris Saint-Germain, opposé dans le groupe B à l'Atlético de Madrid, à Pasadena en Californie, où le PSG en profite aussi pour développer sa marque et sa notoriété avec une boutique éphémère installée jusqu'au 23 juin dans Melrose Avenue à Los Angeles. Elle sera régulièrement fréquentée par des personnalités associées au club, comme l'Argentin Javier Pastore. Souvenez-vous, l'ambassadeur du PSG désormais, mais il y a joué au PSG de 2011 à 2018, l'ex-milieu de terrain pour qui la victoire parisienne en Ligue des Champions va beaucoup faire pour son image de marque.
C'est normal que gagnant la Champions League, c'est complètement un pas en plus. Le plus difficile l'a fait, maintenant ça reste seulement de continuer à faire des grands matchs en Ligue des Champions et continuer à gagner le championnat de France. Déjà le club il est connu partout, moi je voyage beaucoup avec le foot et je vois maillot de Paris Saint-Germain partout. Maintenant avec les résultats positifs en Ligue des Champions, même dans les championnats, même dans cette compétition que c'est nouveau, il va donner encore beaucoup plus de supporters à niveau mondial. Ça arrive dans les meilleurs moments pour Paris de jouer cette compétition-là.
Javier Pastore avec Loïc Piala, outre PSG Atlético dans ce groupe B. Il y aura la nuit prochaine à 2h temps universel, un duel entre les Brésiliens de Botafogo et les Seattle Sounders.
Le basket et le dénouement du championnat de France commencent aujourd'hui.
Finale entre le Paris Basket et Monaco qui se dispute au meilleur des 5 matchs. C'est la revanche de la saison dernière. Les Monégasques, alias la Roca Team, finalistes malheureux de l'Euroleague, sont en quête d'un troisième titre national d'affilée face à des Parisiens. La jeune histoire, le club n'existe que depuis 2018. Coup d'envoi de ce premier duel à l'Adidas Arena, Porte de la Chapelle à Paris, à 14h30, temps universel. La finale de la Ligue des Champions masculine de handball, c'est sur un seul match, à Cologne, et elle est 100% allemande. Elle oppose le Füchse Berlin, Magdebourg, à 16h, temps universel. Balayé en demi-finale hier, le seul représentant français, Nantes, essaiera de finir sur la troisième marche du podium en affrontant dans trois quarts d'heure le FC Barcelone. Enfin, moins de 2 heures de l'arrivée des 24 heures du Mans, la célèbre course automobile. Ce sont les équipages Ferrari qui mènent la course avec 2 de leurs 3 voitures engagées aux 2 premières places. C'est l'écurie Porsche qui pointe en 3e position.
Christophe Dirémion, à tout à l'heure dans Mondial Sport, ce sera 16h10, temps universel. Et pour le retour sur la confrontation entre Israël et l'Iran, troisième jour d'opération de part et d'autre après l'offensive lancée vendredi par l'État hébreu. On va voir dans un petit instant comment la société israélienne réagit à ces événements. Mais d'abord, sur l'opération Rising Lion en tant que telle, cette offensive israélienne d'une ampleur inédite, elle a été préparée depuis des mois dans le plus grand secret. Chronique, ligne de défense, signé Franck Alexandre.
Le succès d'une telle opération repose évidemment sur le secret. L'armée de l'air israélienne a donc mené ses activités habituelles jusqu'au bout. Rien ne laissait présager que 200 chasseurs, soit les 2/3 de la flotte israélienne ou presque, allaient fondre sur l'Iran. Au total, dès la première nuit, 5 vagues de bombardements ont été menées et le site nucléaire historique de Natanz a été visé. Une première, souligne Eli Tenenbaum, directeur de recherche de l'IFRI à Paris.
On a très clairement franchi un cap, à la fois de par l'ampleur de l'opération l'opération et puis la nature des cibles, hein, puisque le programme nucléaire spécifiquement n'avait jamais été visé. On en a beaucoup parlé, mais au moment des échanges de salves qu'on a pu avoir au mois d'avril et au mois de septembre dernier, Israël s'était retenu, on va dire, de frapper d'une part les infrastructures énergétiques et d'autre part les infrastructures liées au programme nucléaire, vraisemblablement à la demande des Américains, à l'administration Biden encore à l'époque. Et donc là, on a bien franchi un cap avec une intention de désarmer durablement ce programme, puisque l'opération est encore en cours.
Israël indique avoir la maîtrise du ciel dans tout l'ouest de l'Iran. La défense solaire iranienne, composée de systèmes russes S-300, a possiblement été réduite au silence. L'armée de l'air israélienne peut donc frapper où elle veut, quand elle veut, indique Eli Tenenbaum.
La défense solaire iranienne a été rudement mise à l'épreuve au cours des deux précédentes opérations qui avaient donné lieu à des tirs de missiles balistiques ou aérobalistiques et à un emploi de drones contre ces fameux S-300 produits par la Russie qui visaient à défendre le territoire et un certain nombre de sites stratégiques. On sait aussi que Tsahal dispose d'avions F-35 avec une signature électromagnétique réduite face aux radars d'engagement qui leur permettent donc de rentrer dans les enveloppes de tir de ces systèmes de défense solaire sans être vus. En tout cas, très clairement, ça a permis aux Israéliens de tester le dispositif par le passé, de mieux comprendre les failles et cette fois-ci d'y aller en prenant davantage de risques et en mettant en jeu une très grande quantité d'aéronefs.
Vendredi et samedi, l'Iran a riposté en tirant des dizaines de missiles balistiques. Téhéran joue gros car de l'efficacité de cette riposte dépend sa crédibilité militaire et stratégique.
Franck Alexandre, 15h16 à Tel Aviv. Israël visé la nuit dernière encore, on en parlait dans le journal, par des tirs de missiles iraniens en représailles. 13 personnes ont été tuées depuis le début de l'opération vendredi. Bonjour Denis Charbit.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous depuis Israël, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël et spécialiste de la société israélienne. Ces dernières nuits, donc, les sirènes d'alerte ont retenti à travers le pays, la population appelée à se mettre à l'abri. Quel est le sentiment général des Israéliens sur cette opération lancée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou ?
De manière générale, par rapport au conflit qui oppose Israël au Hamas dans la bande de Gaza, avec la question des otages, où là, effectivement, les opinions sont relativement divisées, là, il y a plutôt unanimité. Parce que personne ignore en Israël, hein, toute tendance politique confondue, que l'Iran développait, était sur le point de mettre au point donc une arme nucléaire dont on sait bien qu'elle aurait visé Israël tôt ou tard, et en tout cas elle aurait établi un duopole dans une région dans laquelle seul Israël maîtrise l'arme nucléaire. Donc de ce point de vue-là, il y a un très large consensus, mais qui bien sûr oblige la société israélienne, tous les Israéliens, à prendre les mesures de sécurité nécessaires et en gros à se tourner vers leur abri. Alors, c'est là où les inégalités sociales apparaissent, hein, puisqu'il y en a qui disposent de cet abri anti-atomique dans leur propre appartement, mais d'autres doivent aller dans les escaliers lorsqu'il s'agit de bâtiments construits avant 1990. Hein, à partir de 1990, tout bâtiment construit en Israël doit avoir un abri anti-atomique. Et là, je dirais, c'est un petit peu, il faut bien le dire, au petit bonheur la chance, ça atteint la localité de Rishon LeZion, hier celle de Bat Yam, Tel Aviv avait été frappé, Haïfa également, avec voilà les dégâts, alors bien sûr matériels très très expressifs, mais surtout aussi des pertes humaines. Hein. Vous avez donné le chiffre de 13 à ce jour, et on comprend bien qu'on est dans une longue durée, en tout cas.
C'est ça, la population se prépare à ce que cela dure.
Oui. Oui, oui, tout le monde se prépare à ce que cela soit dur. D'abord, toutes les activités sont arrêtées. Hein. Les gens continuent de travailler à domicile. Hein. Personne ne se rend en son lieu de travail, sauf ce qui est considéré comme urgent, les hôpitaux, mais les universités, tout est bloqué et donc vous imaginez que toutes les personnes se sont apprévisionnées puisque ça, bien sûr, ça reste ouvert et bien entendu qu'on est aussi incertain que si on était en dehors d'Israël sur la durée de l'opération. On voit bien que l'armée israélienne tient bien les choses en main. On se rend compte que la capacité de riposte iranienne, certes, est significative, mais elle est globalement interceptée par la défense israélienne, mais ce n'est pas du 100%, ce n'est pas totalement hermétique. Les drones, les dômes de fer, voilà, toute la panoplie mise en place par Israël depuis de longues années fait bien le travail, mais elle ne le fait pas complètement, d'où voilà ces 5 ou 6 immeubles qui ont été gravement endommagés et qui ont entraîné effectivement des pertes humaines.
Est-ce que la population fait la différence entre cette riposte iranienne et les tirs qu'il y avait pu l'avoir de la part du Hezbollah libanais?
Oui, bah d'abord parce que vous savez, il faut bien comprendre une chose, c'est la première fois en fait depuis 1973, hein, depuis la guerre du Kippour, que l'armée israélienne est confrontée à une autre armée. Alors certes, c'est pas les fantassins, c'est pas l'armée de mer, c'est pas de la même configuration qu'en 1973, mais on n'a plus affaire à une organisation, le Hezbollah, le Hamas, le Fatah autrefois, voilà. Là, on est dans une confrontation d'État à État, hein. L'Iran, c'est pas une petite organisation militaire, et donc on se doute, et c'est la grande question qu'on se pose en fait, est-ce que c'est un tigre de papier, est-ce que elle a fait miroiter ce qui avait été le cas, hein, pour le Hezbollah. Pour le Hezbollah, on avait surestimé sa capacité, et puis on s'est rendu compte qu'elle était finalement bien plus faible qu'on le croyait, et c'est la question qu'on se pose pour l'Iran, est-ce que effectivement l'Iran, à l'image de Hezbollah, n'a pas la capacité qu'elle prétendait avoir lorsqu'elle menaçait Israël de représailles. Ou bien c'est un plan à échéance, à plusieurs étapes, et peut-être que finalement on est encore une fois dans une opération de longue durée, et que quand bien même le rapport de force semble être beaucoup plus favorable à Israël, hein, dans la capacité de frapper le terrain de l'adversaire, il n'empêche que il n'est pas encore certain que l'Iran soit comme on a un peu le sentiment aujourd'hui, soit aussi faible. Elle a peut-être pas dit son dernier mot, et parce que là on est dans le secret. Alors, on peut imaginer que du côté du renseignement israélien, on sait à peu près évaluer les capacités iraniennes. Nous, ce sont des expectatives, ce sont des interrogations que l'on se fait. Actuellement, on est plutôt confiant, mais finalement, on se dit que pour transformer le Moyen-Orient, parce que si c'est une opération qui aboutit à un match nul, je pense que c'est pas de cela que les Israéliens rêvent. Eux, ils aimeraient que le régime iranien, le régime la République islamique tombe. Et ça, pour y arriver à cela, ça, il ne suffit pas d'Israël. Israël peut ouvrir les hostilités, mais il faudra bien un moment ou un autre que les Américains
interviennent. Soutien notamment américain, oui. Vous parliez de l'ouverture de ce nouveau front, très rapidement, Denis Chahabit. Vous parliez de consensus tout à l'heure de la population. Personne n'en veut donc au gouvernement Netanyahou d'avoir ouvert un nouveau front?
Non, parce que là, je dirais... Alors, attention, même la guerre menée après le 7 octobre a été considérée comme légitime par Israël, mais je dirais que l'argument, vous savez, sur la dimension personnelle, il fait ça pour rester au pouvoir, etc. Alors, bien sûr que s'il réussit dans cette opération, il sera conforté dans son pouvoir, mais là, personne ne doute que l'ennemi iranien n'est pas un ennemi que Netanyahou a inventé de toutes pièces pour justifier une nouvelle opération militaire. Personne ne doute de l'hostilité foncière de la République islamiste à l'égard de l'existence même de l'État d'Israël.
Il y a un sentiment que le gouvernement israélien n'avait pas le choix. Merci beaucoup Denis Chahabit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. On parlait de la société israélienne. Parallèlement, en Iran, des manifestants s'étaient rassemblés vendredi pour appeler à la vengeance contre l'État hébreu. Mohamed Ahmadinejad est l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en France. Pour lui, l'objectif in fine d'Israël, c'est de faire tomber le régime de Téhéran. Il assure que l'Iran a toujours respecté ses engagements sur son programme nucléaire.
Le nucléaire et tout ça, c'est un prétexte. En fait, il y a une tentative de bouleversement d'un régime élu par son peuple. Donc, il faut le savoir, il faut que l'opinion internationale le sache bien qu'il y a un pays qui s'autorise à attaquer n'importe quel pays quand il sent qu'il est coupable à ses propres yeux. Quand on met dans le contexte que l'Israël, dans ses 75 années d'existence, avait attaqué 10 pays dans la région, nul voisin n'a pu être à l'abri des attaques israéliennes. Bien sûr, il y a une collaboration internationale, un soutien ici et là, mais ça veut dire que toujours il y a eu des prétextes, il y a eu des préparations, il y a eu des tentatives malicieuses, secrètes, comme vous dites, à l'intérieur de l'Iran.
Alors,
il y a eu un
on va en reparler, on va développer toutes ces questions, mais sur les dégâts et sur le nucléaire. Depuis vendredi, à quel point votre programme nucléaire a-t-il été endommagé, affaibli, ralenti par les frappes israéliennes?
À vrai dire, notre activité nucléaire, qu'il s'agit de l'enrichissement d'uranium, a eu toujours une nature pacifique.
Ce n'est pas ce que disent les Occidentaux et l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui souligne que aucun autre pays n'a autant d'uranium enrichi à un tel niveau pour des raisons civiles.
Il n'y a pas une interdiction dans les traités non-prolifération sur l'uranium enrichi et le montant et le tonnage, le kilogramme, tout ça. Donc, ce sont parmi les droits indéniables des membres signataires du traité de non-prolifération d'avoir les activités pacifiques, civiles, mais tant qu'il n'y a pas de preuves qu'il y a une déviation vers l'aspect militaire sur les intentions, on ne peut pas juger. Il y a des rapports techniques sur lesquels on peut toujours parler, comme cela a été le cas il y a plus de 20 ans maintenant entre nous et pays membres de l'agence.
Nicolas Falaise a une question pour vous.
Et monsieur l'ambassadeur, ce dialogue, cette négociation sur le fond du dossier, le nucléaire, est-ce que cela peut reprendre dans les prochains jours, les prochaines semaines?
Pourquoi pas? On n'a jamais cessé les négociations. Vous vous souvenez, quand il y a eu, en 2015, il y a eu des soupçons et des prétendus. Avant 2015, on est entré dans la discussion. Il y a eu un droit reconnu pour tous les membres de la traité de non-prolifération d'avoir des activités civiles pacifiques d'enrichissement. Et les autres pays signataires qui avaient déjà cette capacité avaient devoir de les aider. À partir du moment, entre nous et les Américains, on s'est mis d'accord sur une reconnaissance du droit des Iraniens d'avoir accès à cette science. À ce moment-là, on a commencé de coopérer avec agences plus qu'avant, ce qui nous a blanchi toutes les accusations. Et puis après, dans cette circonstance-là, qu'on a signé un accord avec 5+1, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine et la Russie. Et la communauté internationale, par le biais d'une résolution à l'ONU, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a entériné cet accord et cette situation. Et depuis, il y a eu des inspections régulières. Si on compare le budget de l'AIEA consacré à la supervision et l'inspection iranienne, on peut comprendre que plus de tiers de son budget, plus de 40% des inspections se fait en Iran. Et jusqu'aujourd'hui, il n'avait pas eu de preuve de déviation de l'activité nucléaire iranienne vers militaire.
Alors justement, l'AIEA a quand même accusé et condamné l'Iran pour le non-respect de ses obligations pas plus tard que jeudi. Et votre pays a annoncé hier qu'il ne coopérera plus comme auparavant avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Qu'est-ce qui va changer?
Selon la Charte des Nations Unies, aucun pays n'a le droit à attaquer les installations atomiques. Tandis que l'Israël a fait ça unilatéralement, illégalement. Lui, il a des armes atomiques. Il est hors de l'inspection de l'Agence de l'énergie atomique. À cette circonstance-là, qu'une partie de notre installation a été atteinte par les bombardements illégaux, agressions illégitimes des Iraniens. Comment vous voulez savoir? Vous voulez accepter qu'encore une fois, on fait un accès tout azimut et on met en danger notre peuple?
C'était donc Mohamed Amin-Nejad, l'ambassadeur d'Iran en France, invité ce matin de Julien Coquel-Rohem. Entretien à retrouver dans son intégralité sur RFI.fr. Restez avec nous dans 30 secondes à suivre toute l'actu africaine.
Tout à l'heure sur RFI, idée Pierre-Edouard Deldic.
Avec la revue Esprit qui s'intéresse ce mois-ci à la Syrie notamment, avec l'anthropologue Véronique Naoumgrap de retour de Damas qui revit après la chute de Bachar el-Assad.
C'était un tel événement et je pense que c'est une des choses les plus extraordinaires qu'on puisse vivre dans sa vie. Une tyrannie sanguinaire féroce et le tyran qui tombe un jour.
Idée proposée par Pierre-Edouard Deldic, tous les dimanches à 19h10 TU sur RFI.